Équipe CFAK. 110-120. Pour des chocs culturels.
Aujourd'hui, à 110-220, on parle de ces différences culturelles, du choc des différences culturelles entre la France et le Québec. Autour de la table, nous retrouverons Alexandre Tardif, Yannick Pinard et Véronique Lamoureux, moi-même, Alex Baillargeon, pour être le passeur de bâton, le passeur de bâton de la parole, disons ça comme ça.
Le MC, du coup.
Et voilà. Aujourd'hui, ben voilà plusieurs sujets qui seront abordés au cours de ce balado et on se tourne vers Véronique pour parler de cette différence qu'il y a dans la langue, bien évidemment. Peut-être la première chose que l'on remarque lorsque l'on met le pied en Europe.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Alors oui, en effet, Alex, la langue, c'est comme le centre même de la culture. Si on ne peut pas se parler, comment se comprendre et comment construire le reste de notre culture, n'est-ce pas? Donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de textes qui parlent des différences entre le français québécois et le français de France. Puis on peut s'interroger légitimement, y a-t-il un français international, comme on le dit souvent, un français comme Radio-Canadien de notre côté, là, ce qui est la société d'État à la radio, tu sais, est-ce qu'on peut dire que vraiment, on a un français international. Mon impression à moi depuis la semaine que je suis ici, c'est que non. Hein? Premièrement, les principales différences, on en voit beaucoup dans les sons, la manière de parler. Donc, on a remarqué que nos copains français, nos voisins, parlent beaucoup du bout de la bouche, donc du devant de la bouche. C'est-à-dire que nous, on parle vraiment plus du fond de la gorge, comme m'a dit Julie la semaine dernière. Alors, les sons nasaux, notamment, on est reconnus pour ça, les Québécois. Donc, on parle des « ain », « en », « on ». Hein? Donc, on peut les sentir, ces sons-là, qui sont beaucoup plus nasaux chez nous, les Québécois. Donc, « dent », « soin », « pont ». On peut entendre que les Français diraient « dent », « soin », « pont ». Donc, ils sont beaucoup plus devant. Ensuite de ça, on a beaucoup d'affrication aussi. Non, ça n'a pas rapport avec l'Afrique. Donc, c'est dans les « ti », « tu », « di ». Du. Donc, quand il y a un T ou un D suivi du I ou du U, nous, on ajoute un Z. On est créatif. Donc, si on veut être poétique, on pourrait dire « Je suis pendu à tes lèvres ». Donc, vous avez entendu le petit « du, 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 du » des bourdons. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Donc, voilà. Les Québécois, nous aimons bourdonner.
La petite abeille, elle travaille fort. Biz, biz, biz.
Biz, biz, biz. Il y a aussi le fameux son « A » qui fait beaucoup rire les Français. Donc, nous, on a un « A » un peu lâche. On a la bouche molle quand on dit le « A ». Donc, nous, on distingue deux « A ». Donc, le « A » et le A. Donc, tout ça, c'est pour ça que personne ne s'appelle Emma au Québec, comme notre collègue, parce que c'est difficile à dire pour nous. Donc, c'est là qu'on va voir, nous, davantage la distinction entre le mot tâche et tâche. En France, on ne sait pas trop si on parle d'une tâche de spaghetti ou d'une tâche comme le balai. Là. Donc, ce n'est pas si évident. Même chose avec râper, le verbe râper, du fromage, râper des carottes et râpe la musique.
C'est ça, c'est qu'on continue de faire la distinction alors qu'en France, peut-être, ça va être un petit peu moins évident au premier abord si on écoute distraitement, par exemple.
Exactement. Même chose pour nos voyelles relâchées. Hein? On se souvient quand on a une voyelle au centre d'un mot, par exemple, le mot vite, bien, nous, on le dit vite, justement. Donc, vite. Alors que les Français vont prendre le temps d'appuyer sur le i. Donc, vite. Donc, on va vraiment entendre le i.
L'oiseau
davantage.
S'est écrasé dans vite.
Dans vite. On oublie le R.
Très.
Ça, on enlève le R.
Ça, c'est une histoire de consonne, là, je vous dirais. Puis, on a aussi nos fameuses voyelles longues qu'on est reconnues, qu'on appelle la diphtongaison en linguistique. Donc, c'est fête. Père, siège, neige, la fameuse neige, alors que les Français, quand ils vont dire le mot neige, vont dire neige. Donc, voilà. Alors, puis justement, tu m'as parti, Alex, sur ce sujet-là. Quels sont les grands disparus de la France? Mm-hmm. Parlons-en en commémoration de ces pauvres phonèmes perdus. Alors, déjà, bien, on n'a pas le même matériel de base. On a beaucoup plus de phonèmes en français québécois qu'en français de France. Notamment, je l'ai dit il y a quelques instants, le fameux A. Donc, en France, on a perdu le A, A. Comme ça, tu sais. Donc, voilà. Et on a aussi perdu le E c'est devenu un... En fait, le « et » est devenu un « e » en français de France. Donc, ça fait que maintenant, on ne sait plus si le brin est brun ou le brin est brun. C'est très difficile. Tâche et tâche, je l'ai dit. Fête et fête et fête. Donc, on n'a plus ces distinctions-là. Donc, les Français ont perdu plusieurs sons. Également, parlons de notre rapport à l'anglais qui est différent. Pour nous, l'anglais, c'est complètement... c'est le diable. Donc, nous sommes entourés d'anglais. Nous voulons préserver notre langue. On est 6,5 millions de locuteurs entourés et qui nagent dans le Canada anglais et les États-Unis. Alors, pour nous, c'est pas bien. En France, ben, l'anglais est trendy. Hein, c'est la mode. On utilise le week-end plutôt que la fin de semaine, le courriel plutôt que le mail plutôt que le courriel. On fait du shopping plutôt qu'on magazine. Donc, des exemples comme ça. Et au Québec, nous, ben, même si on a honte de ça, puis qu'on n'aime pas ça, que ce soit ça, mais l'anglais a pénétré notre syntaxe, c'est-à-dire la structure de nos phrases. Donc, ça veut dire qu'on va calquer l'anglais. Donc, un meilleur exemple, nous, on ne se balade pas, on prend une marche. Donc, we take a walk. Hein? Donc, c'est là que nous, on intègre l'anglais. Alors, grosse différence ici aussi. Et les fameux vocabulaires, pour terminer, nos vocabulaires qui font tant rire les Français, donc nos chaudrons pour faire nos potions dans nos cuisines, les souliers que l'on met en bois qui ont été gossés par le cordonnier du coin, et le soir, quand on s'abrille dans notre Airbnb qui fait froid, plutôt que de se couvrir d'une belle petite couverture, nous, on s'abrille. Donc, voilà, on les fait bien rire et... La réponse à ma question initiale, il n'y en a pas de français international, je crois, puisque, ben voilà, il y a tellement de différences. Et là, on parle seulement de deux bastions, parce qu'on sait qu'il y a d'autres locuteurs français à travers le monde. Alors, imaginez le nombre de différences qu'on pourrait trouver, et je n'ai même pas pu toutes les nommer, d'ailleurs.
Malheureusement, mais on a quand même un beau portrait général. Merci, Véronique.
Avec plaisir.
À vélo, à pied ou en tramway? C'est facile de se déplacer sans polluer.
On a parlé des différences langagières, mais un autre point qui nous a fortement marqué lorsque nous sommes débarqués de l'avion, c'était le transport. Parlons du mode de vie qui est complètement différent de ce côté-ci de l'Atlantique, puisque la culture du transport public est beaucoup plus importante du côté européen que du côté nord-américain, où on valorise la voiture, où on valorise la voiture solo. Même combien de voitures on croise dans une journée qu'il n'y a qu'un seul occupant. Côté transport, nous, de Sherbrooke à l'aéroport de Montréal, ça a été l'autobus.
Je pensais dire un périple.
Un périple aussi, mais...
Oui, en quelque sorte.
En quelque sorte, mais pas beaucoup d'autres options de toute façon. On n'aurait pas pu prendre le train entre Sherbrooke et Montréal comparativement à ici. Lorsque nous sommes arrivés à Paris, on a pu prendre le tram pour s'en venir jusqu'à Orléans. Mais de l'aéroport à Paris, c'était le métro. La variété... Et en plus, on continue à prendre des autobus ici aussi, évidemment. Mais... cette variété-là, avec laquelle, en plus, on se dispute continuellement dans les différentes villes, ne serait-ce que les gouvernements qui veulent se dire verts, mais qui finalement sont un peu plus bruns et ne font pas nécessairement la promotion du transport en commun, ou disent carrément aux villes, arrangez-vous avec ça, vous mettrez une taxe, vous, ce n'est pas à nous de payer pour l'entièreté de vos transports. Ce qui n'est pas complètement faux. On ne demande pas non plus à ce qu'il y ait une gestion des transports par le gouvernement parce que déjà qu'ils ont de la misère à gérer le reste, on ne leur demandera pas en plus de gérer les autobus. Mais justement, cette variété-là n'existe pas. Ce n'est pas normal que dans une ville aussi grande que Sherbrooke, parce que pour les avoir comparés en termes de population, on est aux alentours de 150 000, 175 000 avec les régions élargies autour de la ville. C'est difficile de concevoir qu'il y a autant d'options, ne serait-ce que d'aller d'où on réside jusqu'à l'université. On peut venir en autobus, en tram, en taxi. En trottinette, on a l'embarras du choix. Tandis que Sherbrooke, vouloir la traverser d'est en ouest, des fois, ça peut prendre quasiment le quadruple si c'est pas prendre 2 heures plutôt que 20 minutes.
Ça, c'est quand il n'y a pas un viaduc ou un chantier en construction.
En plus...
ou une manifestation.
Ah oui. Donc, c'est à l'ère du temps.
Encore une fois, l'embarras du choix. Mais tout ça pour dire que, malheureusement, au moment où, justement, on est à une ère où on est conscient des changements climatiques, où, on est de plus en plus à vouloir diminuer l'utilisation de la voiture, mais c'est que ça ne devient pas avantageux de notre côté de l'Amérique parce que un trajet qui, justement, en prend 20 minutes, dans une ville comme Sherbrooke, en prend quasiment comme... une heure, si on est chanceux et qu'il n'y a pas trop de trafic, bien, ça évidemment que ça fait en sorte que les gens ne seront pas intéressés à aller chercher ces transports-là. Et qui plus est, bien, il y a des factions qui viennent décourager les gens aussi. Dans le cas de la ville de Québec, où on s'obstine avec le tramway, qui éventuellement va y avoir une suite d'ici la mi-juin pour peut-être éventuellement commencer à espérer débuter le projet.
C'est un téléroman.
C'est un complet téléroman. Bien, ça fait en sorte également que les gens sont malheureusement mal informés, se disent que ça va coûter des milliards de dollars. Il y aura un troisième lien de voiture ou d'autobus ou de tram. Mais là, après ça, les gens, évidemment, ben non, je veux utiliser ma voiture. Je veux être autonome par moi-même. Donc, ça reste encore un énorme débat. On est content de voir que ça se peut ailleurs dans un climat qui nous ressemble. C'est pas la défaite de « il va y avoir tellement de neige l'hiver » qui va être un argument.
Puis les gens arrivent presque à l'heure avec le transport en commun. Presque. Faudrait partir plus tôt.
C'est nous le problème.
Voilà. Nous le problème. Et parce qu'il y a une offre, on peut justement se permettre de « ah, il va y en avoir un autre dans 9 minutes
ben oui.
et non pas oui. dans 30. » Donc
le temps d'une clope.
Le temps d'une clope. Donc, outre, évidemment, bon, le transport, ce qui nous a marqué, évidemment, c'était le décalage horaire, la température, évidemment, mais ne serait-ce que le soleil qui se couche une heure plus tard ici en France versus au Québec. Évidemment, le décalage horaire n'aide pas, mais c'est sûr qu'avec le climat, l'ambiance... Sortir à l'extérieur lorsque le soleil vient de se coucher, pour nous, il est 19h. Il n'est pas 21h30. Donc,
non.
C'est sûr que c'est de l'adaptation, évidemment, mais ça fait partie des bonheurs du voyage.
On peut se coucher plus tard.
Et voilà.
Bonjour à Happy Meal. La, 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 la.
Yannick, de ton côté, tu t'es concentré sur tout ce qui était alimentaire, le choc alimentaire.
Oui, ben en fait, je me demandais si justement on vivait un choc ou en fait on était simplement dépaysé momentanément là, parce que plus on s'attarde aux chiffres, plus on s'attarde à l'offre alimentaire, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ressemblances tout de même. Là.
Oui.
D'abord, ben, on a des épiceries comme eux, hein, ils ont des supermarchés, on a ça, et c'est très internationalisé, pardon, c'est très... standardisé, si on veut. Là, on retrouve sensiblement les mêmes choses.
On peut
frites,
trouver des bobettes avec des bobettes. Écouteurs, puis
ouais,
en même temps,
ouais,
un concombre.
Ouais, Carrefour, c'est plus un Walmart, là.
Ouais, Maxi, mais... dans cette lignée-là,
ben
pour
oui.
Québec.
Ben oui, Maxi. Donc, l'inflation, premièrement, frappe les deux pays. Donc, au Canada, c'est pire, je dirais. C'est peut-être... On est tout près de 6 % en France là, dans les derniers mois. C'est quand même fort.
Mm-hmm.
Au Québec, particulièrement au Canada, on s'est fait mal là, dernièrement.
Ouais.
C'était du 8, du 9 % mensuellement là, dans l'épicerie. Et certains produits, c'était 15 à 20, 22 % pour la viande, pour certains produits considérés de luxe.
Mm-hmm.
J'ai vu des brocolis coûter 12 $
le
pendant
haché,
la pandémie.
Là,
on s'est essayé.
Ouais.
Donc, à ce niveau-là, c'est très, très semblable. Au niveau des banques alimentaires, donc la demande, vraiment, les deux pays, en fait, ben, les deux États, Québec et France, a augmenté. Là. On est passé vraiment en 2011 en France... à 820 000 demandes, en 2022, 2,4 millions. Donc, il y a une augmentation considérable. Même chose au Québec, quelque part à 635 000 demandes en 2019, puis 4 ans plus tard, en 2023, pardon, on était rendu à tout près de 900 000. Donc, c'est considérable, ça n'arrête pas d'augmenter. Toutefois, est-ce que l'offre alimentaire, ben, elle est là des deux côtés? La réponse, c'est oui. Parce que depuis quelques années, ben, on mange des burgers, des pizzas, même on a de la poutine en France. Bon, est-ce que c'est la même poutine que chez nous? Bien sûr que non.
Oui.
C'est différent, c'est des frites de fromage.
Les mêmes dommages aux reins, par exemple.
C'est ça, oui. Voilà, voilà, voilà. On va uriner les mêmes pierres. Ça
on
fera
a un spécialiste
pas du
bien ici, Alex.
Donc, forcément, on retrouve les mêmes choses sensiblement
oui.
sur les étagères. C'est tout simplement dans les habitudes alimentaires, bien sûr, qu'on se différencie un peu. Les Français... les Européens en général prennent beaucoup plus de temps pour manger. Premièrement, eux, ils font le petit déjeuner. Ensuite, ben, ils vont travailler généralement, ceux qui travaillent. Il y aura le déjeuner qui est notre dîner à nous.
T'es mêlé même en le disant.
Ah,
vois,
c'est terrible, j'ai faim. Et ben, ils auront le dîner qui, nous, sera notre équivalent de souper. Toutefois, nous, On soupe souvent entre 5 et 7, alors qu'eux, souvent, c'est de 19 à pu finir. Donc, on le fait, on décale. C'est simplement qu'on est décalé. On mange un petit peu plus tard, peut-être, pour les Français. Autrement, ben, on retrouve les mêmes restaurants, ben, je veux dire restaurants, les chaînes de restauration rapide, là, ce qu'on dit le fast-food là, à l'anglaise. McDo, Burger King, Subway...
Starbucks.
Et même, ben, y a des grilles, il y a des brasseries, des grilles, si vous voulez, ici. Bon, les Français nous disaient que c'était pas favorablement bon, c'était pas si, si délicieux, mais qu'en général, les gens peuvent se retrouver. Toutefois, le hic, c'est qu'au Québec, longtemps, on est, je vais dire, on est américanisé. On vit dans un océan anglophone, on est baigné des anglophones et les Américains, les États-Unis, devrais-je même dire, là, sont nos voisins. On a une longue tradition même d'alimentation avec eux. C'est qu'à une certaine époque, avant la pandémie, ben, les restaurants souvent étaient 24 heures. Il y avait de l'offre alimentaire 24 heures. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les restaurants ferment souvent à 20 heures le soir, puis il n'y a pas grand-chose. À Sherbrooke, par exemple, on a un Wendy's, on a un McDonald's qui reviennent au format 24 heures, mais c'est tout. Donc, si on veut manger dans un bistrot, par exemple, le soir, c'est pas possible de le faire à Sherbrooke, sauf un ou deux restaurants au centre-ville qui vont l'offrir. Donc, à ce niveau-là, c'est limité. En France, ici, ben nous, on est gagnants. Hein? On peut aller au restaurant très tard et prendre le temps de manger une planche, un bon repas entre amis et quitter vers 11h minuit sans problème. On pourrait pas faire ça, nous. Donc, est-ce que c'est un choc?
7h, c'est la tisane.
Voilà. Est-ce que c'est un choc? Non. C'est un avantage.
C'est un avantage.
Autrement, qu'est-ce qu'on remarque dans les... dernières années, les 10 dernières années, par exemple, au Québec, ben, qu'est-ce qu'on trouve davantage de boulangeries, de cafés de proximité, donc des variétés vraiment de pain qu'on trouve justement ici. Davantage une offre végétarienne et végane avec le kombucha, le tofu notamment, les fromages et les viandes. Ben, c'est des fausses viandes à base de plantes notamment, là, c'est de la synthèse. Mais évidemment, un constat est toujours là, la malbouffe coûte moins cher, donc elle est plus attrayante. Évidemment, ben, ça va chercher, par exemple, les jeunes ou les gens qui ne veulent pas cuisiner, donc ils vont se garrocher dans la malbouffe. Et ben, évidemment, vont développer les problèmes qui viennent avec. Mais autrement, est-ce qu'ici, on a été tant choqués que ça en arrivant en France? Ben, c'est qu'on retrouve davantage, évidemment, de charcuterie, de fromage, de vin et de pain. Donc, est-ce qu'en manger tous les jours, c'est une solution viable? Non, il faut modérer comme tout. Par contre, l'offre, elle est belle.
Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français.
Ah bon?
Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien.
Ah, c'est certain.
Un Québécois d'expression canadienne française française. On est des Canadiens, Américains, francophones d'Amérique du Nord.
Oui,
des franco-québécois.
On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens.
Les deux.
C'est ça.
Le dernier, mais non le moindre, Alexandre. Toi, tu t'es intéressé particulièrement à la musique.
Oui, effectivement. Moi, j'ai trouvé... Ben, je vais gâcher le punch, déjà. J'ai remarqué qu'il y a une différence au niveau des habitudes de consommation de la musique francophone entre la France et le Québec. Je vous dis tout de suite... Les Français semblent moins écouter de musique en français que les Québécois. On va explorer ensemble quelques pistes là, qui vont peut-être expliquer pourquoi c'est le cas ou encore est-ce que c'est des résultats de la cause, en fait. Là. Enfin, on check ça ensemble. D'abord, juste dans les radios, on va parler un peu de radio, c'est ça qu'on fait, hein, d'après tout. En France, ils ont un quota de 40% de musique francophone, tandis qu'au Québec, on est quand même à 65%.
Wow!
Là où il y a similarités, c'est qu'on a les deux endroits ont des trucs et astuces pour jouer le moins de musique francophone possible.
Les coquins.
Oui, c'est ça. On va commencer avec la France. Donc, entre 60 et 70 % de la programmation francophone des trois plus grandes radios françaises était constitué de 10 chansons. Bref, c'est une longue phrase qui me mêle même moi, mais bref, ça veut dire que pour gonfler les pourcentages de musique francophone, on écoute les mêmes 10 chansons essentiellement en boucle. au Québec, pour pallier, truquer un petit peu les pourcentages, on joue les chansons en français dans les heures où, essentiellement, personne n'écoute la radio.
C'est des créneaux vides.
Oui, c'est ça. Donc, entre 6 heures le matin et 18 heures le soir, donc les heures que les gens écoutent le plus la radio pour aller au travail ou en revenir, la musique francophone occupe seulement 34% des ondes. Mm. Tandis qu'entre 20 heures et minuit, où personne n'écoute la radio, ça monte à 89%.
Okay. Ouais, dans le décalage, on aurait pu l'écouter à ces heures-là, on ne sait pas.
On aurait dû.
Ouais, ouais.
Sinon, une autre piste, ça serait, j'ai regardé les palmarès des deux pays, puis il y a quand même une différence au niveau de l'étendue des styles musicaux francophones. Je trouve qu'au Québec, on passe par le rock, le pop, le country, le folk, avec, par exemple, tu sais, ça va de Cœur de pirate à Les Cowboys fringants, à Lisa Leblanc, à Carquois. Tandis qu'en France, en regardant les palmarès, c'est soit du pop ou du rap, et c'est complètement tout. Sinon,
ça prend toute la place hein, ici.
C'est ça, exactement. Sinon, pour les autres styles de musique, ça va tout de suite dans la musique anglophone.
Hmm.
On dirait que c'est un réflexe.
Ouais, ben j'imagine, mais pour beaucoup aussi.
De plus en plus, notre jeunesse aussi, la leur, là, on dirait que ça devient normalisé, puis que c'est que ça, puis qu'on s'intéresse moins peut-être.
On l'a eu confirmé hier soir avec Emma, qui nous disait qu'elle ne voulait plus découvrir rien dans sa vie.
Ouais, Emma est un échantillon test.
Elle
voilà.
N'a pas les
c'est
gènes.
Confirmé.
C'est extrapolé, on l'aime beaucoup. Là.
Les gènes de Magellan ne lui ont pas été transmis, n'est-ce pas?
Oui, ben, c'est ça. La France semble aussi avoir un modèle plus américain du star system, là, si on peut dire. Là. Il y a des grandes, grandes stars que tout le monde écoute. Et on dirait que l'émergence, la relève prend moins de place. Fait que peut-être que c'est ça, le pop et le rap qui est très populaire prennent toute la place médiatique. Qui sait? Sinon, ben, il y a peut-être une raison. La raison qui me semble la plus plausible par rapport à ça... c'est que, en fait, c'est seulement 77,5% de la population québécoise qui est francophone, contrairement à 96,6% des Français.
Wow.
Aussi, le niveau de population est 10 fois plus élevé en France qu'au Québec. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. On se sent peut-être notre 77%, il ne fait que descendre aussi avec les années. Donc, peut-être c'est par réaction... par amour pour notre culture et notre préservation, que là, j'allais dire qu'on se force à écouter, mais plus qu'on prend plaisir à écouter et qu'on... Quand on sait que quelque chose... c'est comme une blonde, hein? Quand tu sais que tu vas à perdre, on dirait que tu fais des cadeaux, là.
Ben ouais.
Tu te rappelles...
On y organise un festival quand on
veut. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc,
On dirait que la jauge entre la norme et la tendance, vraiment, est à une extrême, parfois, là, avec ça.
Ouais, ben c'est ça. Ça m'a vraiment surpris que malgré qu'il y avait 96,6% de francophones, ils en écoutent essentiellement moins en proportion que nous.
Ben, c'est ça qui arrive quand tu vas au Salad's Bar et non au bar à salade. Là. J'ai vu ça au Carrefour. Ça m'a choqué.
Moi aussi, complètement. Mais ton allégorie avec la blonde qu'on va perdre est parfaite. C'est exactement ça. Nous, je pense que le français, on est vraiment sur le bord de la perte.
On fait des efforts d'hypocrite.
Ouais.
Merci, Alexandre. Rapidement, pour conclure ce tout premier épisode de 110 à 220, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui a été le plus marquant depuis notre arrivée? Véronique?
Moi, je dirais que c'est la difficulté magistrale de se trouver un café potable. Personnellement, les cafés que j'ai consommés ici m'ont un petit peu déçu. Donc, c'est sûr que ça me manque, nos bonnes vieilles brûleries de café avec nos latte art et la petite fleur qu'on nous fait dessus avant de sacrer du cacao dessus.
Mais la journée qu'on va trouver, ça va être notre place de prédilection. Yannick?
Évidemment, moi, j'ai pris 10 livres là, en mangeant du délicieux pain, des charcuteries et en prenant les meilleurs fromages de la région. Mais autrement, je dirais que c'est vraiment la langue. La langue, l'abus d'anglicisme, c'est partout. C'est la pub, c'est les gens, c'est à toutes les sauces. C'est trop, pour vrai, avec ce qu'Alex nous donnait comme chiffre en plus. 96% des gens ici, le français, c'est leur langue première. Là. Ils n'ont pas besoin d'en mettre autant. Est-ce que ça me choque? Oui, quelque part, mais en même temps, je me dis, hey, au Québec, les jeunes font tout ça.
pourquoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ça. Et autant dans la musique, parce que je crois que la langue et la musique se rejoignent énormément culturellement. Je veux dire, c'est ça qu'on écoute, c'est ça qu'on fait, on parle ainsi. Mais je ne comprends pas encore. J'aimerais ça le comprendre, mais ça prendra bien plus qu'un simple balado.
Alexandre, de ton côté?
Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est on dirait, l'américanisation de la planète. Là. Je savais qu'au Québec, un gros mot, je ne sais pas s'il existe, mais je savais qu'au Québec, on fait tout attention de l'influence des États-Unis, puis on le sait qu'ils nous influencent énormément, mais on est collé dessus. Donc, ouais. Je savais pas si... je pensais que c'était moins flagrant que ça à l'autre bord de l'océan. Et de le voir, j'ai un peu mal pour ma culture francophone. Ben ouais,
on dirait que l'Occident leur appartient.
Ouais. Le monde,
au niveau
en fait.
Du capitalisme, c'est oui. Que...
Parce que eux, tu sais, pourquoi ils sont sur le bord de la guerre civile? Là. Pourquoi c'est eux nos modèles?
Parce que c'est bon du Kentucky, du KFC, hein?
Ça restera à débattre, évidemment, mais ce sera pour un prochain épisode. Bien sûr, on vous retrouve dans une seconde édition très bientôt, 210 à 220. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.
110-120. Pour des chocs culturels.